Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage, votre émission de Cato Bell sur RCF. Pour décrypter avec moi cette semaine, je retrouve Suzanne Bécard, doctorante en théologie à lycée Louvain, et Pierre Granier, secrétaire de rédaction du journal Dimanche. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Armelle, bonjour Suzanne et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
Comment ça va aujourd'hui? J'ai envie de faire un tour de...
Avec un beau soleil, donc très bien.
Alors, au sommaire de cette émission, la journée de ce 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, on essaiera de faire un peu le tour de ce vaste sujet en première partie d'émission. Après la pause, nous nous intéresserons au marché de la seconde main. On verra notamment ce que vous achetez en seconde main ou pas. Et puis, en troisième partie de l'émission, ce seront vos Zooms. De quoi est-ce que vous allez nous parler?
De deux événements.
D'accord.
De foot.
De foot. C'est noté. Alors, donc j'ai pris note, on y reviendra. Et puis on terminera par la présentation du journal Dimanche de la semaine que vous nous ferez, Pierre, comme d'habitude. Alors ce vendredi, nous sommes donc le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, je l'ai dit. Partout dans le monde, c'est une journée de manifestations et de revendications. Même chez nous, différentes manifestations sont organisées. Propose de faire un petit tour d'horizon non exhaustif, car les droits des femmes ne sont pas les mêmes partout. En France, information inévitable qu'on va devoir aborder aujourd'hui, l'IVG vient d'être inscrite dans la Constitution, alors qu'aux États-Unis, là, l'accès y est de plus en plus réduit. Tout autre registre, en Afghanistan, les femmes n'ont presque plus droit. En Iran, elles sont arrêtées pour un voile entre guillemets mal porté, ce qu'on n'imaginerait pas chez nous. Et selon un article de l'UNICEF qui date de 2018, donc c'est pas les derniers chiffres, 12 millions de filles seraient mariées pendant leur enfance chaque année dans le monde. Voilà, c'est un petit tour des droits des femmes dans le monde. Il y a bien d'autres choses à dire, évidemment. Est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez concernée par cette lutte pour le droit des femmes qui, bah, parfois peut nous sembler un peu loin puisque chez nous ça a l'air d'aller. Franchement, on n'a pas trop à se plaindre, mais on voit que ailleurs c'est plus compliqué.
Oui, se sentir concernée, oui, parce que la sororité avant tout, bien sûr. Et si on peut être aussi concernée ici, pas de la même manière, c'est sûr, mais il y a encore tellement de choses à faire que oui, on peut tous et toutes se sentir concernées.
Alors c'est vrai que si on regarde la situation d'un point de vue planétaire, il y a énormément de choses à faire un peu partout dans le monde. Je trouve que la journée, pour ce qui concerne, je dirais, la Belgique ou les pays d'Europe, comme on dit, d'Occident, je trouve que la journée, elle est bien aussi pour situer les évolutions qu'il y a pu y avoir en la matière, les progrès qu'il y a pu y avoir en la matière, et tout ce qui reste à accomplir encore. Et effectivement, là, on a des résurgences, surtout au niveau, je pense, des violences faites aux femmes, enfin, de tous ces aspects, je dirais, plus proches des questions de société, que des questions socio-économiques qui sont à l'origine de cette journée, puisque c'est vraiment, c'est éminemment politique la journée donc des droits, pour l'égalité en fait entre les hommes et les femmes, et là encore il y a quand même des choses qui sont sans doute à améliorer, notamment par rapport à l'égalité en termes de salaire, l'égalité à l'accès à certains postes, pas forcément lié à un empêchement juridique, mais parce que voilà, en tout cas dans le secteur privé, voilà, c'est un train, comment dire, ce sont des postes, des salaires qui sont souvent établis par négociation, et on retrouve des écarts de salaire qui ne sont pas justifiés à compétences égales.
Alors, vous parlez des violences, on y reviendra tout à l'heure, c'est aussi un grand sujet. Mais avant de se lancer dans ces grands sujets d'inégalité ou d'égalité, enfin ces grands combats, est-ce que vous trouvez ça normal de devoir se battre, d'avoir une journée comme le 8 mars en 2024, alors que certains droits sont assez fondamentaux en soi?
Est-ce que c'est normal? Non, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne chose que cette journée soit là. On voit qu'il y a quand même certains pays, elles sont une journée qui est très populaire, en Suisse, en Espagne. En Espagne, il y a quelques années déjà, peut-être 6-7 ans, il y a eu 5 millions de femmes qui sont descendues dans la rue pour vraiment protester. C'est un peu plus discret chez nous, même s'il y a quand même des appels à une journée avec des manifestations. Mais voilà, c'est la journée est quand même nécessaire.
Oui, et aujourd'hui encore plus que avant, si je puis dire, parce que les choses se taisent un peu moins et on ose dire les choses et des choses sortent. Et justement, je pense que c'est bien que cette parole se libère et que les personnes se mobilisent. Donc, je pense que c'est essentiel d'avoir cette journée pour ça. Il y a aussi énormément d'associations et de groupes qui se bougent et qui se mettent en œuvre principalement autour de cette journée.
Alors, on va attaquer le premier gros morceau, l'IVG, qui était inscrite comme sécurité dans la Constitution française. C'est une première mondiale. Au total, si mes chiffres sont encore corrects, ce sont 87 pays qui ont dépénalisé au moins en partie l'avortement. Cela permet aux femmes qui ont recours de le faire dans un environnement sécurisant, en étant bien entourées par des professionnels. Parce qu'en effet, selon l'OMS, il y aurait près de 40 000 femmes qui décèdent chaque année en ayant recours à des avortements clandestins dans des pays où donc il n'est pas dépénalisé. Est-ce que cette inscription dans la Constitution, c'était une nécessité ?
Oui, c'est très important. Et quand on voit à quel point les politiques changent très régulièrement et qu'une loi peut partir et être abrogée aussi vite qu'elle est arrivée, l'inscrire dans la Constitution, c'est aussi la rendre plus pérenne et c'est aussi protéger ce droit de disposer de son corps, finalement. Et donc, c'est cette liberté de...
Oui, alors, par rapport à la Constitution, moi, je suis un petit peu gêné. Franchement, je ne suis pas sûr que ça soit le lieu juridique. Enfin, en tout cas, pas le lieu, puisqu'au sens de texte, mais quelque chose est quand même un petit peu, comment dire, embêtante avec l'inscription de ce droit à l'IVG dans la Constitution, c'est qu'en fait, pour les médecins, il n'y aura plus la possibilité de revendiquer une clause de conscience par rapport à l'acte. Donc, étant donné que on fait de ce droit donc un droit suprême inscrit dans la Constitution, c'est pas tant pour protéger, je dirais, en soi la possibilité d'avorter, mais c'est vraiment pour empêcher qu'on fasse un médecin donc qui est censé pouvoir pratiquer cet acte ne veuille pas, enfin réclame de ne pas le faire pour une question de conscience. Donc là, c'est un petit peu gênant d'avoir inscrit le droit qui, à mon avis, en France, n'était pas cette dépénalisation, en tout cas, me semblait bien convenir. Ça permettait aussi de mesurer aussi le geste qu'il y a derrière, qui est quand même enlever la vie, quelque part, un embryon. Et je serais plus mesuré par rapport au progrès que ça peut représenter vis-à-vis du combat féminin, même si, effectivement, moi, je peux comprendre que la question est effectivement, forcément, par nature, elle concerne évidemment uniquement la femme. Mais il y a un droit quand même, comment dire, il y a un angle, si vous voulez, qui est le droit de la femme, qui est peut-être pas, qui ne peut pas être, auquel on ne peut pas réduire l'IVG.
Oui, Suzanne.
Juste pour corriger sur les mots, je dirais pas le droit de la femme, mais le droit des femmes, pour ne pas être essentialiste, parce que la femme n'existe pas, en tout cas pour moi, mais des femmes existent et c'est le droit des femmes de leur corps, et je trouve ça important de mettre au pluriel parce que aucune femme ne se ressemble et on est tous très différents.
Merci pour la petite précision. Alors, la position de l'Église sur le sujet, elle a été, on la connaît hein, toutes et tous, elle a été répétée lundi pendant que les sénateurs étaient en train de voter en France. Cette position, c'est qu'elle s'oppose à tout droit à supprimer une vie humaine. Alors ma question, c'est est-ce que dans tous les cas, on risque pas de supprimer des vies humaines dans le sens où, sans la dépénalisation, comme je l'ai dit, des femmes meurent en avortant de manière illégale ?
Souvenons-nous de toutes ces personnes décédées, des cintres, des faiseuses d'anges. Je pense que ce droit est très important pour éviter tout cela. Donc,
Oui, en ce sens, c'est sûr que la loi sur l'avortement a permis d'encadrer et de rendre les avortements beaucoup plus sûrs. Et elle était sans doute nécessaire par rapport aux aspirations de la société. Et donc le droit traduit toujours les demandes des sociétés. Donc de ce point de vue-là, je dirais le sens de l'histoire faisait qu'on ne pouvait pas s'opposer à l'avortement. Mais voilà, moi, avec la réserve donc, que je notais tout à l'heure par rapport à l'inscription dans un texte comme la Constitution, qui est plus là pour, je dirais, organiser les pouvoirs et par rapport à ce droit tout à fait spécifique. Bon, à mon avis, il n'y avait pas une menace. Et puis le fait de brandir maintenant, de dire, ben voilà, maintenant c'est inscrit dans la Constitution, on ne pourra pas revenir dessus. En fait, c'est faux. Il y a toujours un vote qui est derrière l'inscription d'inscription de quelque chose dans une Constitution. C'est toujours soumis à un droit. Et donc, de la même manière qu'on l'a inscrit par un vote, on pourrait le supprimer, à mon sens, par un vote. Dans les mêmes conditions. Donc, je ne suis pas sûr que ça garantisse quoi que ce soit en la matière.
Seulement si on regarde un peu dans les pays comme aux États-Unis, où les différents États, forcément, n'ont plus ce droit. Et on a vu à quel point ce droit a été effacé. Et ça a été très difficile quand même. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention à la récupération politique. Et voilà, et aujourd'hui, on voit bien que ce droit entré dans la Constitution s'est porté par des féministes, par notamment la sénatrice Mélanie Vogel, etc. Mais il y a aussi derrière aussi une récupération politique qui, je pense, peut être très dangereuse. Donc c'est un acte qui est éminemment politique et très difficile à cerner.
Je vous propose de ne pas nous attarder plus sur ce sujet qui pourrait faire un grand
cette
débat.
Journée, c'est pas
la journée de l'IVG. On a parlé des violences faites aux femmes tout à l'heure, on l'a mentionné. J'aimerais revenir là-dessus parce que c'est un des grands problèmes que les femmes de tous les pays rencontrent. Je vais vous donner quelques chiffres, encore une fois. En 2014, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne a publié une enquête sur la violence contre les femmes à l'échelle de l'Union européenne. Ce rapport repose sur les interviews de 42 000 femmes dans tous les États membres de l'Union. Dans l'ensemble, 31% des femmes ont subi des violences physiques de la part d'un partenaire ou d'un non-partenaire depuis l'âge de 15 ans. Cela représente environ 13 millions de femmes. En Belgique, en 2023, ce sont 24 femmes qui ont été victimes d'un féminicide, qui ont donc été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Alors la parole, elle se libère sur les violences de manière générale. Il y a des manifestations contre, il y a des acteurs qui prennent la parole, des acteurs et des actrices, par exemple. Nous avons des lois qui ont été votées pour protéger les victimes. Est-ce qu'un jour, ce sera assez et on n'aura plus besoin de se battre sur ce point-là?
Alors, il faut garder espoir, bien sûr, et garder espérance. Moi, je pense que tout se joue surtout beaucoup dans l'éducation, et qu'à partir du moment où l'éducation, notamment, désolé, mais des hommes, changera, alors les violences changeront aussi. Quand on arrivera à exprimer ses émotions autrement que par de la violence, voilà, je pense que les choses changeront, c'est sûr.
Oui, Pierre. C'est la société du patriarcat, comme on dit, donc qui est mise en évidence, malheureusement, à travers ces terribles chiffres. Donc l'éducation, c'est certain. C'est pour ça que, à mon avis, je pense aussi que la journée de la femme, c'est pas une journée réservée aux femmes, c'est une journée qui doit être partagée entre femmes et hommes pour pouvoir envisager ensemble qu'est-ce qui, voilà, comment on peut améliorer les choses. Il y a des enjeux qui sont, je dirais, des enjeux du quotidien, qui sont dans lesquels il y a beaucoup de choses à revoir. On parlait tout à l'heure de l'IVG, moi on pourrait parler aussi de la maternité et peut-être mieux, comment dire, partager des tâches en la matière. Donc on voit quand même que le congé pour les pères a tendance à augmenter. Il y a des pays où c'est une parité, où le congé pour les pères est égal en durée à celui pour les mères. Donc il y a tout ce façonnage, je dirais, de la part de grâce à des lois qui pourraient peut-être avoir des conséquences vertueuses par rapport à ça. Et voilà, donc je crois vraiment que le combat féministe, il inclut aussi une bonne partie des hommes, d'une certaine manière, donc des hommes qui sont de bonne volonté par rapport aux revendications, donc pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes, qui est à la base de la journée.
C'est surtout dans la prise de conscience qui est très importante. Cette journée permet aussi cette prise de conscience. Et ce qui est important, je pense, c'est de continuer à déconstruire ces normes sociales et sexistes qui existent aujourd'hui. Et plus on montre et on dénonce ces normes, plus on arrivera à les déconstruire et à changer la société et les différents points de vue. Je pense aussi dans le monde du cinéma, par exemple, avec toutes les violences que subissent principalement les actrices, mais aussi les acteurs. C'est aussi par cette question de hiérarchie dans le monde du cinéma, mais aussi par la vision et le point de vue, ce qu'on appelle le male gaze, qui est aussi très important de faire bouger les choses et de changer. Le male gaze, c'est du coup ce point de vue masculin objectivé, par exemple une relation intime ou sexuelle dans un film, mais vue par un homme, ne sera pas filmée de la même manière par une femme. Donc voilà, changer tout ça, montrer, déconstruire, ça changera forcément les choses dans l'avenir.
Vous parlez du cinéma, Suzanne. La parole, elle se libère chez les hommes aussi, petit à petit. Récemment, Bouly Lanners expliquait qu'il avait été victime de harcèlement par une réalisatrice, mais que c'est plus compliqué pour les hommes de prendre la parole. Est-ce que le combat féministe, c'est pas aussi devoir dire bon ben on va les croire, on va les aider et aider à libérer la parole chez les hommes aussi?
Ah oui, c'est pas le féminisme, c'est pas la guerre, une guerre des sexes, hein, donc c'est vrai. Non mais on est vraiment dans cette idée d'égalité, absolument. Quand on a des témoignages comme celui de Bouly Lanners qui, alors effectivement, au contraste avec ce qu'on entend habituellement. Bien sûr que je pense que les femmes, elles sont tout à fait sensibles à ça et peuvent tout à fait reconnaître la possibilité d'un harcèlement venant d'une femme. Donc ça franchement, ça, je veux dire, l'un n'exclut pas l'autre et il faut pas vraiment se tromper. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le combat féministe par rapport à l'égalité des traitements et des salaires, et c'est un combat qui ne doit pas être uniquement mené par les femmes. Et d'ailleurs, elles appellent en général les hommes à venir les accompagner, à descendre dans la rue pour réclamer des meilleures conditions de travail. Ce sont des mères aussi, les femmes, donc je pense que les enfants sont aussi sensibles à cette question-là quand ils voient leur mère qui... Ils la voient, mais c'est pas assimilé parce que, comme le disait Suzanne tout à l'heure, il y a des normes qui restent un peu, voilà, qui sont pas écrites, mais qui sont là. Effectivement, ce qu'on appelle la deuxième journée de travail pour les femmes qui commence après le travail dans l'entreprise. Je sais pas si les enfants, ils sont sensibles. Ils trouvent ça, naturel parce qu'ils l'ont toujours vu. Mais là aussi, c'est un combat, mais sur lequel il faut éduquer les enfants et puis aussi éduquer les maris et les pères.
Oui, bien sûr, les hommes, il y a aussi un travail à faire sur la gestion des émotions, savoir exprimer ces émotions. Pendant des années, on a appris aux hommes de ne pas pleurer. Voilà, donc je pense qu'il y a un énorme travail à faire là-dessus. Et on peut bien sûr croire des hommes qui dénoncent des violences à partir du moment où ces hommes arrivent à exprimer aussi ces émotions. Et donc, ça passe par là et ça passe par l'éducation notamment. Et donc, ouais, je reviens à cette idée d'éduquer les garçons et les filles d'une autre manière que... comme on l'a fait aujourd'hui, donc notamment par les émotions et aussi une nouvelle masculinité aussi où le mythe de cette virilité n'a plus trop de sens aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça peut commencer par là.
Si, alors c'est pas une question facile qui arrive. Si vous deviez vous concentrer sur un seul combat féministe à mener là maintenant pour la prochaine année, jusqu'au prochain 8 mars, ce serait lequel?
Alors, le combat plus j'en ai important. Plein, j'en ai plusieurs, c'est sûr. Mais je pense que un combat qui me tient vraiment à cœur, c'est aussi de reconnaître les douleurs des femmes, notamment pendant leurs règles. Et donc, reconnaître l'endométriose comme une maladie et continuer la recherche pour l'endométriose, c'est, je pense, un très beau combat, déjà, pour commencer. Voilà, et aussi, je peux rajouter encore une autre chose pour l'année prochaine.
Un tout petit.
Les femmes qui souhaitent ne pas être mères aussi, et revendiquer cette non-volonté de maternité qui n'est pas forcément collée à toutes les femmes. C'est aussi un combat qui est très actuel et qui a mérite d'exister et qu'elle devrait être entendue.
Pierre, votre combat pour cette année?
Pour cette année, je ne sais pas si c'est lié à l'année en particulier, mais je pense qu'il faut aussi apprendre aux jeunes filles à pas limiter, à brider leurs rêves, si c'est des trucs qui ressemblent plutôt à des activités de garçons, mais si ça leur permet de s'épanouir, et puis aussi des encourager. Par exemple, j'ai lu que de moins en moins, apparemment, de jeunes filles s'engager dans des études scientifiques ou mathématiques, enfin, je ne sais plus s'il y a un domaine bien précis.
C'est les STEM. C'est l'ensemble de tout ça.
C'est l'ensemble. Et alors, eh bien, là aussi, est-ce que c'est une volonté de leur part ou, je dirais, qui est respectable, hein? Peut-être qu'elles sont plus attirées par d'autres branches de formation. Mais si c'est pas le cas, si c'est peut-être parce que, voilà, c'est, justement, les environnements sont trop masculins dans les écoles d'ingénieurs ou dans, ben c'est très dommage. Donc, qu'elles s'accrochent à leur rêve d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment de manière, comment dire, c'est universel comme je dirais, souhait pour toutes les petites filles. Et on peut penser effectivement à toutes ces petites filles en Afghanistan qui n'ont plus l'accès à l'école. Et on voit dans quelle misère après ça amène les pays dans lesquels ces règles sont en vigueur, parce que c'est la moitié de l'humanité qu'on touche, et pourquoi elles n'auraient pas accès à l'instruction comme tout le monde? Ça ne peut qu'améliorer, à mon avis, la situation d'un pays. Donc voilà, que toutes les petites filles s'accrochent, fassent ce dont elles rêvent, ce qu'elles ont envie de faire.
C'est un très beau souhait pour terminer cette première partie d'émission. Merci Pierre. Alors je vous propose de faire une première pause en musique avec une chanson de circonstance pour cette journée du 8 mars. On va écouter Aretha Franklin avec Respect.
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armel Delmel.
Et nous sommes de retour dans Décryptage pour cette seconde partie d'émission avec Suzanne Bécard et Pierre Granier. Alors pour cette deuxième partie d'émission, elle va être un peu plus légère que la précédente, rassurez-vous. Nous allons maintenant parler du marché de la seconde main qui chez nous a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Selon l'Écho, en 2023, le chiffre d'affaires des friperies a augmenté de 19%, mais ne pèse quand même que 6% sur le marché belge de la mode. En Wallonie à Bruxelles, les friperies indépendantes se multiplient pendant que celles liées à une association comme Terre ou Oxfam continuent de grandir. Sinon, il y a aussi la fripe en ligne. Et sur Vinted, ce sont 3 millions de Belges qui sont actifs pour vendre ou acheter des articles de seconde main. Est-ce que vous, vous faites partie de ces gens qui achètent ou qui vendent en seconde main?
Oui, bien sûr.
J'achète plus que je ne vends. Je donne pour être, pour que ça soit revendu, en fait.
C'est bien. On parlera de ça, justement. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous allez aller automatiquement acheter vers la seconde main? Ou, à contrario, est-ce qu'il y a des choses où vous dites « ça, c'est automatiquement du neuf, je ne peux pas faire de la seconde main ».
Oui, en fait, je pense que c'est un état d'esprit, même une philosophie. Et quand on rentre un peu dans cet engrenage, eh ben, c'est difficile de revenir à acheter du neuf une fois qu'on a acheté du seconde main. Parce que c'est très difficile, finalement, de remettre le prix du neuf quand on a l'habitude d'acheter en seconde main. Moi, j'ai personnellement maintenant l'habitude depuis 2 ans d'aller en friperie pour m'habiller. Et ben, c'est très difficile de retourner à la fast fashion après. Voilà, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est très rare pour une occasion.
Moi, j'achète du reconditionné, donc je ne sais pas si ça sera dans les choses que vous allez aborder tout à l'heure, parce qu'au niveau des technologies, c'est franchement tellement cher si vous voulez acheter, par exemple, un smartphone tout neuf. Que là, d'office, je vais attendre quelques années que l'appareil soit démodé d'une certaine manière et qu'il soit beaucoup plus abordable en termes de prix. Un peu moins pour, voire pas du tout pour les vêtements. C'est peut-être aussi une question de génération. Un peu moins sensible, plus sensible à la qualité du vêtement, même s'il faut mettre le prix, et après, le faire durer. Pour moi, je crois qu'avant la seconde main, je crois qu'on devrait faire durer les vêtements. Et c'est bien tout le souci de la fast fashion qu'évoquait Suzanne à l'instant. Je crois que on est là face à un problème qui est effectivement dramatique en termes d'impact sur l'environnement.
Effectivement, la fast fashion qui est un des plus grands pollueurs dans la production et puis dans les déchets pour tout ce qu'on n'achète pas et qu'on ne met pas très très longtemps. Est-ce qu'il y a des raisons particulières pour lesquelles vous faites des achats en seconde main, que ce soit du coup de la technologie ou des vêtements? C'est juste financier ou il y a d'autres raisons?
Moi aussi, j'aime beaucoup aller en brocante et il y a cette idée aussi d'avoir un objet un peu unique qui a été peut-être démodé mais qui est introuvable ailleurs. Donc, cette idée de dénicher quelque chose qui n'a pas été encore déniché, trouver la perle rare, mais aussi bien sûr une question éthique, hein, se dire que c'est beaucoup plus respectueux pour l'environnement que d'acheter de la seconde main plutôt que d'acheter et puis de faire profiter d'autres personnes aussi, bien sûr.
Je crois que la démarche pour la brocante est peut-être un peu différente encore quand on cherche l'objet un peu unique, un peu démodé justement, qui n'a pas été reproduit. C'est un peu un petit achat pour, je dirais, singulariser, voilà, une décoration, quelque chose. Donc, c'est peut-être pas lié, c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on met en opposition avec un autre élément de mobilier, par exemple, le mobilier, ou de décoration, où on dit, je vais faire le choix d'une pièce dans un vide-grenier ou sur une brocante que du neuf. Je suis pas tout à fait sûr par rapport à ça. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, c'est quand même des métiers qui, enfin, en tout cas, le seconde main, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a un effet de mode en ce moment pour des questions. Alors où on met en avant l'aspect, il faut lutter contre, il faut préserver son environnement. Et l'une des possibilités, c'est d'acheter du seconde main. Mais enfin, les bouquinistes, ça date quand même d'il y a très longtemps. Et les brocanteurs, je dirais même pour les voitures, les voitures d'occasion, ça fait très longtemps que ce marché-là est très important. Il est beaucoup plus important, je crois, que les ventes de voitures neuves. Emmaüs, c'est pas tout jeune non plus. Autrefois, on se vantait pas d'aller chercher son costume ou ses vêtements chez Emmaüs. Maintenant, au contraire, on dit « Oh, regarde ce que j'ai trouvé chez Emmaüs, ça m'a coûté 10 euros et j'ai un truc magnifique. » Donc voilà, c'est un petit peu dans l'air du temps. Je suis pas toujours sûr qu'il y ait un arbitrage vraiment rationnel entre l'achat en seconde main, dans une friperie, et puis pour des petits objets de décoration, et puis un objet neuf. Parce que si on a besoin d'un truc vraiment, vraiment bien, bien précis, on risque quand même de se retourner vers le marché, je dirais, du neuf.
Oui, c'est vrai que comme tu dis, il y a ce côté très décomplexé et assumé maintenant d'aller chiner, d'aller acheter en seconde main, alors qu'avant c'était plutôt presque une tare d'avoir ces vêtements. Moi j'avais beaucoup d'a priori aussi avant de rentrer dans une friperie. Je trouvais qu'il y avait une odeur, que c'était vraiment très particulier, qu'il fallait laver 3 fois ces vêtements. Alors que plus du tout maintenant, je trouve que c'est cette idée d'avoir un vêtement ou un objet qui a une histoire aussi, ça c'est aussi une des raisons, c'est se dire que cet objet, vêtement a eu une autre vie avant et continue sa vie avec moi et continuera peut-être sa vie avec une autre personne après. Et voilà, c'est comme une boucle qui se finit jamais. Et je trouve ça beau pour l'histoire des objets.
Est-ce que par contre, j'ai une question alors pour le coup, est-ce que, enfin une question et un constat aussi. Moi, j'ai pas l'impression que ça freine d'une certaine manière la consommation. Finalement, on se dit c'est pas cher, j'en achète beaucoup.
C'était la question que je voulais poser, Pierre.
Ben voilà,
c'est exactement ce que je voulais dire.
J'ai lu dans mon pensée, Armel. Parce que moi, j'ai constaté que ma fille qui achetait beaucoup aussi, comme Suzanne ou comme vous peut-être Armel, du seconde main, mais l'armoire, elle éclate. Donc, c'était pas le but au début quand j'ai fait faire une armoire. Que cette armoire, au bout de 2 mois, n'est plus, enfin, je veux dire, soit déjà obsolète, enfin, soit n'est plus, comment dire, efficacité en termes de rangement. Parce que voilà, ça l'amuse beaucoup. Et donc, finalement, elle achète. Et bon, on se retrouve un peu dans une même situation où on est dans le trop, quoi.
Je suis d'accord. Surtout que les friperies, que ce soit au kilo ou alors avec des grosses démarques, sont tellement rentables que oui, on a forcément envie d'en acheter plusieurs. Et j'ai exactement le même problème, c'est que mon armoire déborde à présent, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Et c'est une toute autre façon, je pense, de consommer. Mes frères achètent des vêtements de marque et vont l'utiliser jusqu'à la fin vraiment de la chemise en lamelles vraiment très, très usées. Et pour le coup, moi qui achète quand même pas mal en friperie, je remarque aussi la qualité aussi des vêtements. J'arrive à trouver des jeans qui sont du vrai jean et que je peux aussi maintenant emmener jusqu'à la fin. Alors oui, j'ai beaucoup d'habits, mais je peux les emmener jusqu'à la fin et voilà, pareil.
On sent qu'il y a de l'expertise.
Suzanne experte en friperie, c'est la prochaine présentation que je ferai.
J'aime aussi beaucoup, c'est très drôle, hein, mais vous allez dire que je suis dingue des friperies, mais découvrir une ville par les friperies. Maintenant, c'est mon premier réflexe quand je découvre une ville, c'est d'aller voir les friperies de cette ville. Non, mais je suis à un point où j'aime vraiment beaucoup ça maintenant. Et ça fait que 2 ans que je fais des friperies. Avant, j'étais complètement fast fashion. Mais à partir du moment où j'ai compris que ces habits étaient tellement polluants et profitaient tellement à d'autres personnes que voilà, j'ai complètement viré.
Est-ce qu'on est sûr que dans le circuit justement de recyclage, ce circuit circulaire justement, toutes ces friperies que vous allez retrouver dans d'autres pays sont quand même des productions, en tout cas des friperies entre guillemets locales?
Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Et là, du coup, depuis 2 ans, j'aiguise mon œil. Et bien sûr, on peut retrouver des vêtements de très grandes chaînes dans les friperies qui a beaucoup moins de sens. Acheter au kilo des vêtements de fast fashion n'a aucun sens. Mais acheter des vêtements plus vintage, justement plus uniques, comme on disait, qui ont une histoire, rechercher un peu la perle rare, une chemise qui date de quelques années, parfois même les vêtements de mes grands-parents, eh ben, ça a plus de sens parce que c'est une ancienne collection qui a tenu jusque-là, qui est d'une bonne qualité. Il faut savoir aiguiser son œil.
Alors, comme vous, enfin, plus comme Suzanne visiblement, il y a près d'un Belge sur deux qui se tourne vers la seconde main. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde chez nous et il n'y a pas que la Belgique. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie cet effet de mode dont on parlait tout à l'heure? Il n'y a pas que les friperies avec les vêtements, il y a aussi les livres, les DVD. Enfin, moi, je sais que personnellement, c'est les DVD, les CD et les vinyles que j'achète en seconde main. Donc, qu'est-ce qui justifie tout ça? L'argent, qu'est-ce qui fait la mode?
Bon, je pense qu'il y a aussi quand même une question de pouvoir d'achat. Hein, donc, les gens raisonnent aussi par rapport à ce qu'ils ont dans le portefeuille. Donc, ils comparent. Et pour un certain nombre de produits, on constate que malheureusement, ils n'ont plus accès à certains magasins. Donc, ils vont vraiment chercher, devenir des experts, effectivement, connaître les bonnes adresses, là où ils peuvent trouver encore des produits de qualité qui vont durer, mais qui sont effectivement à des prix beaucoup moins chers. Je ne sais pas quel ordre est le rabais, mais quand on vend au kilo, en fait, les vêtements, J'imagine que les rabais sont vraiment de l'ordre de, je sais pas, un dixième du prix neuf, sans doute, avec très peu de, en général, très peu de défauts, puisqu'il y a beaucoup de tri en amont. Moi, je crois qu'il y a, beaucoup de, comment dire, de contrôle par les ressourceries. Et tout ce qui est mis sur le marché, en tout cas dans nos pays, est assez drastiquement contrôlé. Donc, vous avez plutôt des vêtements encore en bon état. Donc, le prix, à mon avis, le critère vraiment essentiel qui ont fait peut-être progresser justement les ventes de seconde main, c'est le prix.
Et puis, c'est aussi une philosophie dans l'air du temps, de cette idée de récupérer. C'est tout un style de vie, un style de, une philosophie de vie. Je pense aussi beaucoup au zéro déchet, do it yourself, faire les choses soi-même, bricoler, retaper, recycler, rénover. C'est vraiment dans l'air du temps. Et c'est d'ailleurs, les politiques européennes vont dans ce sens. J'ai moi-même été faire un petit tour sur le site européen et quelles sont les mesures prises en ce moment. Et justement, j'ai trouvé pas mal de choses. Justement, des initiatives relatives aux produits durables, où ils allaient mettre un accent aussi très important des codes et des exigences sur la présence de produits chimiques, notamment dans les vêtements, etc. Donc l'attention est vraiment mise aussi là-dessus dans une politique plus générale et européenne.
Tout à l'heure, je parlais de la vente en ligne avec Vinted, entre autres, hein, mais il y a aussi d'autres choses comme le Facebook Marketplace, ce genre de choses. Ce qui fait que les gens vendent par eux-mêmes et qu'il y a moins de dons dans les friperies, encore une fois, qui sont liés à une association comme Terre ou Oxfam, ce genre de choses. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette baisse de dons?
Ah ben, en tout cas, pour ce genre d'organisation, oui, c'est très embêtant. Alors, Vinted, c'est devenu vraiment un marché maintenant incroyable. Il y a des gens qui sont devenus des professionnels de la revente, en fait. Je sais pas s'ils en vivent très bien, mais en tout cas, ils achètent à dessein pour revendre. Pas pour porter, mais pour revendre, parce qu'ils savent que, voilà, telle tenue, mais je suis sûr que celle-là, elle est affichée à ce prix-là, mais que je peux la revendre beaucoup plus cher, en fait. Donc, il y a des gens qui ont effectivement, là, comment dire, un sens assez aiguisé du commerce de manière assez naturelle. Donc, du coup, effectivement, ça porte préjudice. Ça porte aussi préjudice, à mon avis, à la planète, le système Vinted, parce qu'on sait, enfin, en tout cas, quand on s'intéresse de près, les cartons qui sont envoyés, donc, ils parcourent parfois des milliers de kilomètres avant d'arriver chez le destinataire pour des raisons logistiques, en fait. Donc ça, à mon avis, ces vêtements, si on calcule, si on met en perspective le bilan carbone de ces colis qui sont souvent transportés par avion, bien on n'arrive pas vraiment à pouvoir justifier d'un mieux en matière d'environnement. Je dirais qu'il y a aussi un autre phénomène, c'est que on sent bien que la tendance maintenant, c'est plus vraiment de s'approprier les choses, donc des vêtements ou de l'électronique, mais plutôt c'est plutôt l'usage maintenant. Donc autrefois, on achetait un vélo, tu disais c'est presque pour la vie, quoi. On s'achetait une chemise, donc comme pour tes frères, il la portait jusqu'au bout. Maintenant, c'est plus du tout ça, c'est l'usage. Voilà, j'en aurai l'usage pendant un temps très limité, sans doute. Et on voit ça aussi avec d'autres phénomènes, par exemple sur les meubles. Maintenant, on loue de plus en plus de meubles. On veut plus s'embêter à acheter un meuble. On le loue, ou alors on l'achète et on le revend, mais c'est un peu la même chose, quoi. C'est qu'on n'a pas le sentiment de s'approprier l'objet, de se l'approprier vraiment, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa propre vie ou de la vie de l'objet s'il y a matière à usure. Mais on voit qu'avec les générations précédentes, quand on fait des déménagements, les greniers sont remplis de choses qu'on n'utilise plus, mais qu'on gardait, dont on ne savait plus quoi faire, mais on les gardait. Maintenant, c'est plus du tout cette mentalité, peut-être aussi.
Je pense que c'est une question de qualité des objets, parce qu'on fait aussi beaucoup d'objets de très petite qualité et qui, du coup, ont un usage très, très limité. Mais si, justement, on rentre dans une autre philosophie d'avoir des objets de meilleure qualité, des vêtements de meilleure qualité qui durent plus longtemps, alors forcément, les choses seront, à mon avis, différentes. Et pour répondre à ta question, je pense qu'il y a aussi un effet de quantité énorme. Je ne me souviens plus du chiffre. J'étais tombée une fois sur toute la consommation, enfin, toute la production, en fait, d'habits qui permettrait d'habiller je ne sais plus combien de fois la Terre, enfin, c'était vraiment énorme. On est dans une surconsommation, une surproduction et une surconsommation. Donc c'est vraiment énorme et c'est ça qu'il faudrait sûrement réduire, c'est cette production à outrance. Et aussi, il y a bien sûr des arnaques, on l'a vu malheureusement, mais sur l'histoire des dons, je pense qu'il y a, tellement de quantités qu'il y aura encore des dons. Malheureusement, des fois, quand on met des habits dans une benne, on ne sait pas exactement où ça va. Et j'ai vu un reportage récemment qui fait vraiment très très peur de se dire que voilà, quand on met son sac dans une benne, alors oui, des fois, heureusement, ça arrive dans les mains d'Oxfam, des petits riens, et que ça a une vertu sociale aussi, réinsertion, et ça a vraiment un bon fond derrière. Et par contre, et parfois, malheureusement, ce sont des tonnes et des tonnes d'habits qui arrivent dans des décharges à ciel ouvert, dans des pays très loin. Voilà, ça fait très mal au cœur. Voilà, il faut vraiment faire attention aussi de où on dépose ses dons.
Voilà, on va s'arrêter sur ce conseil et sur celui de visiter les villes en commençant par la friperie. Et on va faire une petite pause en musique avec Mentissa et Ebam. Et puis on se retrouve juste derrière avec vos zooms.
Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Quelle est grande pour moi cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, mais bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface. Les rêves ou la violence, ah oui, ça vous glace. Mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat.
Bye.
Décryptage, une émission de Cato Bell, Armelle Delmel.
Et nous voici déjà arrivés dans notre dernière partie de ce décryptage. Aujourd'hui, je suis donc entourée de Pierre Granier et Suzanne Bécard et il est temps pour nous de vous écouter sur vos Zooms. Alors, pour rappel, vous allez nous parler, Suzanne, vous parlerez de deux événements et Pierre de foot. Et il me semble que c'est vous qui commencez,
oui,
Pierre.
Oui, je commence très bien. Alors, je parlais de football, mais c'est pas tellement l'aspect sportif que je vais évoquer là, mais plutôt sur ces, sur les travers des supporters, enfin, supporters en tout cas, des gens qui soi-disant aime le football et qui en fait attaque les joueurs sur leurs réseaux sociaux, qui donc toutes les menaces, c'est pas simplement les insultes, c'est maintenant carrément parfois des menaces de mort, comme l'a reçu le footballeur Toby Alderweireld, qui est quand même une des grandes figures du football belge, un des plus capés, comme on dit, au niveau de l'équipe nationale de Belgique, qui joue toujours à Anvers. Et donc, il est aujourd'hui à l'égérie d'une campagne de communication, justement, par rapport à ce fléau, donc des discours de haine en ligne. Et c'est la Fédération belge de football qui a pris ça en charge, et donc l'Union belge et la Pro League, donc l'association donc pour qui gère les championnats professionnels. Donc, ils ont lancé cette campagne. Et moi qui suis pas vraiment très réseaux sociaux, je me dis c'est encore un motif pour moi de ne pas y aller pour voir ça, pour lire comment dire cette haine, comment cette haine puisse se déverser, alors que je sais pas, pour les gens le football c'est plutôt pour faire rêver. Je peux comprendre qu'on soit déçu par un résultat, mais aller se déchaîner sur des joueurs, c'est quand même exposer ces pauvres joueurs à des graves troubles, hein. Il faut vraiment être particulièrement bien armé psychologiquement pour faire fi de tout ça, surtout quand on s'attaque à votre famille. Et donc voilà, c'était pour souligner à la fois le phénomène. On sait bien que quand on va dans un stade, la passion prend parfois des visages absolument inadmissibles. Mais voilà, donc les efforts faits par l'Union belge et par la Ligue. Et surtout, souhaiter bon courage aux joueurs, mais peut-être aussi leur dire, écoutez, est-ce que c'est fondamental pour vous d'avoir des réseaux sociaux? Alors, ça permet de communiquer avec les gentils, on va dire, sans doute, mais peut-être que le mieux, c'est de couper court à tout ça, de fermer, et puis de se consacrer sur vraiment sa vie de footballeur. Voilà.
Merci, Pierre, donc des footballeurs qui ne sont pas à l'abri des haters.
Et haters, voilà.
Comme on dit. Alors, vous, Suzanne, vous vouliez nous parler de deux événements.
Oui, alors le premier, donc là je prêche pour ma paroisse, c'est la Nuit des Religions, donc organisée par des chercheurs et des chercheuses, mais aussi collègues. Donc cette Nuit des Religions, comme son nom l'indique, se déroule de 18h à minuit, le 21 mars, au musée L, à Louvain-la-Neuve. Et donc la thématique, c'est la deuxième édition, et la thématique de cette deuxième édition, c'est la religion face au corps. Ce qui est prévu et organisé, c'est donc des ateliers interconfessionnels, un spectacle lecture, des buffets, débats, concerts, et le tout avec des invités et des intervenants exceptionnels de diverses confessions. C'est un événement qui est gratuit avec une inscription sur le site, et franchement, venez nombreux parce que ça va être assez passionnant. Et le deuxième petite recommandation, c'est pour les amoureux et les amoureuses de la danse, auxquels je recommande chaudement le festival de danse Leg, qui est organisé à la Raffinerie à Bruxelles par Charleroi Danse entre le 20 et le 30 mars prochain. Voilà.
Merci. Et donc, je me retourne vers vous, Pierre, pour savoir ce qu'on peut lire dans le journal dimanche de la semaine, dites-nous.
Eh bien, le journal dimanche de cette semaine s'ouvre avec un cri d'alarme, celui de Claire Nouvian. L'impensable a été réalisé, dit-elle, nous avons vidé l'océan. À cause de la surpêche, l'homme a effectivement vidé l'océan de ses poissons, mais il a fait plus grave encore, il a modifié sa température. Les choses évoluent aujourd'hui très vite et très mal, s'inquiète la fondatrice de Bloom, une association qui se bat précisément pour préserver ce qui constitue le plus grand bien commun de notre planète. L'océan ne s'est jamais aussi rapidement réchauffé qu'en 2023, et les conséquences sont déjà visibles. Modification des courants marins au départ des pôles, augmentation de l'acidification de l'eau de 26%. L'océan, c'est le grand climatiseur de la planète, explique-t-elle, et il ne parvient plus à jouer ce rôle. Pour inverser ce funeste mouvement, les recettes sont connues. Nous devons déconsommer, décroître, transitionner, arrêter urgemment d'émettre du CO2, insiste une Claire Nouvian désespérée, mais pas résignée. « Je n'ai pas besoin d'espoir pour agir », affirme-t-elle, en reconnaissant que ce défi est sans doute aussi spirituel. Ces propos recueillis par Vincent Dalcor sont à lire en pages 2 et 3. En page 7, c'est une bien sympathique rencontre que propose dimanche, celle avec l'abbé Karim Haddad. Né à Beyrouth, ce prêtre est depuis 3 ans le curé de l'unité pastorale Sambre-et-Eure, qui se situe, à votre avis?
Aucune idée, j'avoue, désolé.
La suite de Charleroi, pour situer, voilà.
Je serais parti dans le Hainaut, donc
c'est dans
je
le
pas...
Hainaut, exactement.
Pas trop loin.
Le parcours de Karim Haddad est assez singulier, puisque ce Libanais avait commencé une carrière de réalisateur à la télévision avant que la guerre de 2006 entre son pays et Israël ne le bouleverse au point de changer radicalement de vie pour devenir prêtre. Il revient pour notre journal sur sa vocation ainsi que sur la situation économique catastrophique du Liban aujourd'hui. Un article signé Amélie Hyperciel a retrouvé en page 7. Le dossier de la semaine veut répondre à une question qui concerne tout un chacun puisqu'elle concerne la fin de vie, mais plus particulièrement la fin de vie à domicile. Mourir chez soi, dans son lit, c'est le souhait de 60% des Belges, mais en réalité, seuls 20% de nos compatriotes rendent leur dernier souffle à domicile. Or, il n'est pas toujours nécessaire d'aller à l'hôpital pour mourir, constate Pascal André, secrétaire général de la Fondation Ginette Louviot, qui apporte son soutien au secteur des soins palliatifs à domicile. Nous lui avons donc donné la parole à ce sujet, ainsi qu'à Anne Mesters, qui exerce la fonction de Tanadoula et accompagne à ce titre des personnes en fin de vie, ainsi que leur famille. Voilà, dossier signé par votre serviteur à lire en pages 8 et 9. Et pour terminer, je vous propose une sortie culturelle avec l'expo Maestro à Bruxelles. 3 quarts de siècle après sa mort, la Belgique se souvient de James Ensor, célébré dans de multiples événements, dont cette exposition qui prend place à Beaux-Arts. On y voit près de 150 œuvres du peintre ostendais, dont des peintures à l'huile et des dessins sur papier. Alors, les tableaux de James Ensor font partie de l'imaginaire belge, en particulier ses multiples représentations de masques. La représentation du Christ est aussi un thème majeur chez lui, un Christ auquel Ensor s'est lui-même identifié avec un sens aigu du narcissisme, nous explique Angélique Tasio. Son article est à lire en page 15. L'expo, quant à elle, dure jusqu'au 23 juin. Bonne semaine de lecture avec dimanche.
Merci. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui, de décrypter cette actualité avec moi.
Merci Armel, merci Pierre.
Merci à tous.
Et merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis une fois de plus. Cette émission est évidemment à retrouver en podcast sur le site d'RCF.fr et sur katobel.be et aussi sur plein d'autres plateformes aussi. Je pense que maintenant, vous pouvez nous retrouver un peu partout. Voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau décryptage. We'll be right back.